France Culture.
Nora Bas, bonjour.
Bonjour Caroline Brouet.
À voix nue, épisode 5, la lumière du Levant est toujours une promesse. Ce titre, pour parler des trois derniers livres qui sont les vôtres, on a terminé l'épisode précédent sur vos livres, qui sont pas seulement des livres de cuisine, qui ne sont certainement pas des livres de recettes uniquement, mais qui sont bien plus que ça. Une patrie en vrac, en 2023, de miel et de lait, une histoire douce du Liban, en 2024, et le Levant, les saveurs de l'aube, en 2025, sont ces derniers livres dans lesquels vous rendez hommage au Liban. Et dans lesquels vous alliez vos deux passions, la cuisine et l'écriture. Je voudrais juste commencer par ce titre de l'épisode. On aurait pu l'intituler « Chercher le soleil au pays du miel », en reprenant votre histoire douce du Liban. Parce que je voudrais revenir sur cette détermination qui est la vôtre à vous tourner vers la lumière, en toutes circonstances, vers le soleil. On l'a entendu au cours de ces épisodes, votre vie n'a pas été que joyeuse, vous avez connu la guerre et ses horreurs, vous avez perdu une sœur chérie en 1999, vous soignez des enfants, et soigner des enfants c'est beaucoup de joie, mais ça peut être aussi beaucoup de douleur et de malheur. Qu'est-ce que vous allez puiser comme ressources en vous? Où est-ce que vous allez chercher tout ça pour vous relever de tout, tout le temps?
Alors déjà c'est un désir, c'est une volonté de le faire. C'est pas toujours facile, je reconnais, mais je pense que mon caractère aide beaucoup là-dedans. Il y a un proverbe, je pense que c'est, oui, c'est Gebran qui le disait, et avec lequel j'ai été également élevée, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finit toujours par se lever. Donc c'est un vers d'espoir que j'ai beaucoup entendu, que j'ai lu souvent et tout, et que j'ai vu aussi, parce que la vie reprend toujours le dessus. Ça, je l'ai vu dans mon métier, je l'ai vu à travers les années de guerre, je l'ai vu au quotidien, il y a toujours de l'espoir. Je suis quelqu'un résolument tourné vers la lumière, ça c'est sûr. Je suis née au mois de juin, ça doit peut-être jouer quelque part, mais là où les autres vont voir le gris, la météo, qui je sais pas quoi et tout, non, moi c'est comme un petit soleil qui, voilà, un petit soleil que j'ai en permanence, c'est ma boussole, je suis comme ça.
Donc, ce qui ne veut pas dire que vous fermez les yeux sur le chaos du monde.
Ah, pas du tout.
Ils sont alors non, souffert,
non,
au contraire.
Non, pas du tout. Je ne suis pas du tout dans le déni des horreurs du monde. Attention, je suis au contraire souvent les deux pieds dedans, parce que quand vous voyez la précarité, la misère au quotidien, vous la côtoyez, vous l'entendez, les appels au secours, de la détresse, et Dieu sait si, pas seulement d'ailleurs au Levant, mais la misère est partout, au coin de la rue, il suffit juste de regarder. Mais ça ne sert à rien de la constater et de ne rien faire. Je suis quelqu'un qui fait. Je suis quelqu'un dans l'action. Par exemple, le livre de Miel et de Lait, c'était le départ des éditions Les Petits Soleils, parce qu'un jour, j'ai décidé que juste assister les gens au Liban en envoyant des aides matérielles ne suffisait pas, qu'il fallait faire quelque chose pour leur apprendre à pêcher, comme on dit en Afrique, ça ne sert à rien de toujours donner l'aumône, il faut leur apprendre à pêcher. Donc je me suis dit, nous avons des imprimeries, nous avons des personnes de talent, pourquoi ne pas tenter cette aventure? Alors, être éditrice, c'est pas mon truc, hein. En France, je le ferais pas du tout. Moi, je n'ai pas qu'un métier. J'ai deux métiers, il se trouve aujourd'hui. Je n'en ferais pas un métier à plein temps. Mais au Liban, ça a été une nécessité à un moment donné parce que les livres étaient trop chers à importer. Avec la terrible crise économique qui s'était abattue sur le pays, les gens n'avaient plus les moyens d'acheter des livres. Et de Miel et de Lait, j'ai enclenché le processus de ce livre que j'avais en projet, mais je me suis dit, le photographe qui a fait les photos était atteint d'une pathologie, il avait vraiment besoin de se soigner, donc ça l'a fait vivre. Le stylisme, pareil, donc la personne avait quitté le Liban après la tragédie du 4 août, et donc il fallait aussi qu'elle vive. Et j'ai fait imprimer le livre à Beyrouth, mais également ici, en prenant la permission de BOD, parce que du coup, j'étais passée par un système d'édition qui me permettait d'éditer également le livre à Beyrouth pour le compte des Petits Soleils. Et donc, il n'y avait pas le choix. BOD, c'est une entreprise qui c'est pas de l'auto-édition, mais si vous voulez, ça encourage les personnes qui ont un projet à le concrétiser sans passer par les éditeurs. En tout cas, c'est très compliqué. C'était très compliqué à gérer pour les droits à Beyrouth.
Je vous disais, Noah Baz, que c'est toujours surprenant quand on vous écoute de voir à quel point vous allez puiser donc en vous des choses qui vous permettent de vous relever. Mais j'ai le sentiment que ce qui est vrai pour vous pourrait être vrai pour ce pays que vous considérez comme le vôtre, vraiment, oui. Qui est le Liban.
Oui.
Est-ce que vous diriez que le Liban, dont vous dites qu'il navigue en permanence entre paillettes et tragédies,
oui.
Est capable de se relever tout même des pires situations?
Alors, plus aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'y crois plus. Je n'y crois plus parce que un pays, ce n'est pas uniquement des politiques qui dirigent. Même s'ils sont extraordinaires, ils ne peuvent rien faire si un peuple ne les suit pas. C'est-à-dire qu'un pays, c'est chacun de nous. Ça, c'est le côté suisse. Pour nous, nous sommes très conscients de ce civisme. Au Liban, aujourd'hui, tout est à refaire, mais encore faut-il que les gens aient tous la même façon de penser. Ce qui est très compliqué au Liban, ce sont les égos des gens. Vous me direz que partout dans le monde, il y a des égos démesurés. Mais au Liban, c'est très compliqué de se mettre autour d'une table autrement que pour manger et de discuter politique. Les exactions entre les différentes factions sont présentes partout. La répartition des postes dans l'administration se fait suivant l'appartenance communautaire. Mais c'est délirant. Quelqu'un qui est pas à diplôme égal, on va dire parfois sans diplôme, on va privilégier telle confession pour tel poste, ça n'a pas de sens. Mais l'espoir est là, parce que l'espoir est obligatoire dans la vie. Sinon, notre vie n'a pas de sens. L'espoir est obligatoire. L'être humain est pétri d'espoir. Déjà, sinon, vous pouvez vous poser la question de qu'est-ce que vous faites sur Terre. Notre vie est tellement éphémère. C'est une poussière dans le temps. Une vie humaine, il faut qu'elle soit utile à quelque chose. Alors, si vous partez du principe qu'il n'y a pas d'espoir, qu'il n'y a pas d'espérance, alors j'ai la chance d'être croyante. Ça, c'est peut-être que ça aide hein, beaucoup. Et je pense que ça ne s'arrête pas là, qu'il y a quelque chose après.
C'est pour ça que le Liban, c'est à la fois une patrie en vrac,
oui.
Et une terre symboliquement de miel et de lait. Il faut qu'il y ait les deux.
Mais c'est deux sens très différents. C'est-à-dire la terre se transmet comme une langue. La terre ne bouge pas, malgré tout ce qu'elle subit comme outrage, comme violence, comme agression, la terre reste. Ce que j'ai voulu souligner dans De miel et de lait, c'est la beauté de cette terre. Toutes ces strates de civilisation qui se sont succédées, toutes les tragédies qui ont eu lieu, mais tout le monde est heureux de se lever le matin et de manger une manouche et de partager un halloué, un dessert. C'est ça qui est immuable. C'est-à-dire que l'histoire et les crises politiques traversent un pays, mais ce qui reste, c'est la beauté d'une terre. Regardez la Deuxième Guerre mondiale, les tragédies qu'elle a fait en Europe. Moi, Berlin est une ville que j'assimile beaucoup à Beyrouth. Peut-être aussi parce que au musée Pergamon, il y a la famille qui est là, dans les murs, vous parliez du prix Ziryab, l'emblème du prix Ziryab se trouve dans cette chambre d'Aleppo Zimmer, qui est au musée Pergamon à Berlin. L'emblème du prix vient de ces murs en bois peint et qui raconte que la maison avait été bâtie en 1661, et avait eu divers propriétaires. Et elle raconte la vie, le monde, sous forme de peintures, de citations, d'illustrations. Je trouve que même s'il y a des guerres et tout, le cadre reste, une météo clémente reste, malgré les guerres. Se lever le matin avec la lumière, voir le soleil, ça reste envers et contre toutes les guerres. Même envers toutes les souffrances, ça reste là. Et c'est ce que j'ai voulu souligner. Alors, une patrie en vrac, c'était des réflexions pour essayer de comprendre cette chute de ce pays entre 2015 et entre 2000, Le livre, je l'ai écrit, c'était des pensées comme ça, c'est des petits chapitres qui amusent beaucoup le monde parce que c'est pris sur le vif souvent, dans lesquels je décris les travers des Libanais aussi, leur façon d'être, parfois leur façon de ne pas vouloir faire un pays, parce que ce sont des individualités qui pensent en individualité. Quand vous essayez de tendre la main à un autre Libanais, parfois j'organise des rencontres littéraires, ils sont très surpris parce que chacun pour soi, moi le chacun pour soi, je ne connais pas. On a tous des moments à nous où on se fait plaisir, mais ça n'empêche pas de voir les travers d'un pays et les travers d'une société. En France, il y a des choses fabuleuses que les Français ont oubliées. Il y a cet accès de soins aux soins pour tous, cette facilité. Je sais qu'il y a des failles dans le système, comme dans tout autre système. Mais je pense que les gens ont oublié tout ce que ce pays apporte. L'accès à l'école gratuite, mais un enseignement plutôt de qualité. Alors qu'au Liban, l'école publique, c'est franchement, c'est bateau. C'est en train, petit à petit, de se remettre sur pied, mais c'est un long, long chemin. Donc, voilà. Mais l'espoir reste obligatoire. Voilà.
C'est d'ailleurs ce que vous faites, ou tentez de faire, avec votre dernier livre à ce jour paru, en 2025, Le Levant, les saveurs de l'aube, qui est publié dans une collection qui s'appelle L'âme des peuples,
oui.
Dirigée par le journaliste Richard Verly aux éditions Nevicata, c'est tout un monde.
Ah oui.
Et vous tentez donc à travers ce livre une gageure, c'est ranimer la flamme de l'espoir. C'est comme si vous faisiez un pari sur l'avenir et le meilleur des hommes.
Bah exactement, de toute façon, moi, cette collection, déjà son nom, L'âme des peuples, je trouve ça fabuleux. Parce que finalement, comprendre un pays, c'est forcément passer par son peuple, les traditions de ce peuple. Qu'est-ce qu'il est au quotidien? C'est ça qui m'a beaucoup touchée dans cette collection. Et c'est ça ce que j'ai voulu transmettre en l'écrivant de cette façon. Je n'avais pas envie d'écrire des fiches signalétiques comme pour Sciences Po, en décrivant la géographie et faire l'estrade de l'histoire. C'est pas mon rôle. Je ne suis pas de formation ni historienne ni géographe. Mais vivre avec un peuple, sentre son cœur battre au moment difficile, dans les moments durs. C'est peut-être aussi parce que je suis médecin, je le perçois d'une façon un petit peu différente. Mais j'ai voulu ramener ce levant qui, depuis le 8 décembre 2024, il était déjà en ébullition, mais le 8 décembre, l'explosion du système Hafez al-Assad en Syrie et Bachar al-Assad en Syrie, l'explosion de cette région du monde, les horreurs du 7 octobre qui sont inoubliables, pour moi, à tout point de vue, je déteste la violence, donc qu'elle soit d'un côté ou d'un autre, pour moi, l'humain, je le redis, reste humain. Donc je dénonce toutes les violences. Et j'ai voulu rappeler que c'était également une terre de douceur, ce Levant. Ce n'était pas uniquement des conflits.
Vous êtes pédiatre, vous travaillez la médecine au quotidien, donc avec des jeunes qui sont des jeunes en France, qui sont des jeunes au Liban. Mais sur le Liban, puisque on parle de ce pays, c'est un pays aujourd'hui d'où les jeunes ont très envie de partir.
Mais ils ne pensent qu'à ça.
Et votre dernier chapitre, c'est précisément le titre, c'est précisément « Alors pourquoi revenir ?»
Oui, mais c'est ça.
Et vous tentez, à travers vos livres, à travers vos actions, si je comprends bien, Nora Baz, d'expliquer pourquoi.
C'est la question à laquelle je suis confrontée au quotidien. De tous ces patients que j'ai vus grandir, beaucoup sont aujourd'hui à Paris pour faire des études, éparpillés aux quatre coins du monde. Beaucoup m'appellent par WhatsApp et tout. Je les rassemble souvent chez moi à la maison pour un brunch ou un déjeuner quand je sens que ça ne va pas du tout. Parce que le pédiatre, finalement, j'ai l'impression, comme je dis, d'avoir élevé 15 000 enfants. Donc, parfois, les rassembler autour d'un plat, comme on appelle chez nous les plats du dimanche. Nous avons des plats éponymes, comme ça, le dimanche, que nous faisons, et qui rassemblent les familles. Donc, je les inclus dans les familles et tout. Et je les écoute énormément. Et ils sont à la fois très tentés de revenir, mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand les salaires là-bas, un salaire pour un ingénieur qui commence, c'est aux alentours de 400 euros. Et encore, quand c'est bien payé, ça ne peut pas, je veux dire, les aider. Ça ne peut pas leur donner de l'espoir. Ils préfèrent travailler en Europe et envoyer une partie de ce qu'ils gagnent à leurs parents. Et aujourd'hui, l'équation est comme ça. Et vous savez, au Liban, il n'y a pas de système de retraite. La retraite, c'est les enfants qui la payent. Et il y a une solidarité incroyable et il y a le pilier de la famille qui reste très présent, très important. Le pilier familial, l'entraide familiale, elle est vraiment là. Et donc, c'est pour ça que quand je fais une rencontre ou qu'on me propose une rencontre autour d'un de mes livres, j'invite souvent les jeunes. J'invite mes patients, et j'invite d'autres jeunes Libanais que je connais, que je n'ai pas suivis, mais bon, que la vie m'a mis, dans les hasards de la vie, m'ont mis en contact, pour leur demander leur avis par rapport au futur. Et j'attire leur attention sur une chose très importante, c'est l'établissement de la laïcité. Je leur dis, vous ne pensez pas que si nous optons pour un système laïque, on pourrait peut-être entrevoir un espoir. Arrêter le clientélisme, arrêter le confessionnalisme. Alors c'est très drôle parce que j'ai vraiment les deux sons de cloche. Et j'ai ceux qui ont été élevés dans... Non, c'est impossible de passer outre le confessionnalisme. Nous sommes de cette telle appartenance et il faut qu'on reste avec notre appartenance. J'ai beau leur dire, oui, mais votre appartenance, vous pouvez la vivre chez vous à la maison, sans l'imposer dans un pays, et qu'une égalité des chances qui est à l'origine de la fondation des Petits Soleils pour moi et de comment je vois la vie, donner une égalité des chances à tout le monde, c'est pour ça que j'aime la France, c'est pour ça que j'aime la Suisse. Aucun système social ni politique est parfait. Mais quand je vois la folie qui se passe, par exemple, aux États-Unis, où les gens, là-bas aussi, s'ils n'ont pas d'assistance privée, de sécurité sociale privée ou d'assurance privée, n'arrivent pas à avoir accès aux soins. Aucun système n'est parfait. Mais il faut essayer. Parce que je crois en l'humain. Nous avions une discussion dans mes premières années de fac avec des collègues. Et je disais toujours... L'homme est profondément bon. Et on me disait, oh, tu es naïve. Je leur disais, non, il faut aller chercher cette bonté dans les gens. Moi, je crois à ça. Je crois aussi beaucoup à, évidemment, la méchanceté existe, les coups bas, ça existe, les personnes qui sont hypocrites, ça existe terriblement aussi. J'ai pu le constater moi-même. Mais ça passe. Moi, en tout cas, ça ne me fait rien. Je suis comme un canard, comme on dit. Voilà, l'eau passe et ça ne m'atteint pas du tout. Par contre, ça me fait de la peine pour la personne, parce qu'une personne que je considérais être fabuleuse, puf, subitement, elle chute. Et je me dis, ma fille, tu feras attention. Mais je n'ai absolument aucune méfiance en allant vers l'autre. J'ai toujours cet émerveillement quand je rencontre quelqu'un, sincèrement. De prime abord, alors après, les goûts pour être amis ou pas, ça n'a rien à voir. Il y a une alchimie qui peut se créer avec quelqu'un et pas du tout avec quelqu'un d'autre. Mais il faut croire en l'humain. Voilà, c'est ça ce que je pense.
C'est ce que vous avez transmis aux jeunes, aux enfants que vous avez soignés. C'est ce que vous avez transmis à vos deux filles. C'est ce que vous transmettez, Nora Baz, aujourd'hui également, à vos quatre petits-enfants.
Oui. Absolument, aller vers l'autre. Moi, aujourd'hui, par exemple, ma petite fille Livia, qui a 6 ans, qui est vraiment, on me dit, ma copie conforme quand j'étais enfant. Delphine, ma fille cadette, m'appelle parfois en me disant, mais je ne sais pas cette enfant de qui elle tient, elle est toujours joyeuse. Je dis, ah, bah écoute, elle m'a dit, oui, Nader, mon mari, me dit que ça vient de toi. Je dis, peut-être, mais avec Livia, par exemple, qui a été dans une école anglaise, elle est née à Londres, donc elle a été au départ dans une école anglaise à Paris, pour elle, qu'un de ses copains est de papa, ou une de ses copines de maman, ça la trouble absolument pas. L'appartenance qu'elle soit, elle n'a jamais eu l'idée de poser la question à un de ses camarades s'il allait à l'église ou à la mosquée. Et cette tolérance-là, j'aimerais qu'elle soit partout de mise, en tout cas au Liban, pour accepter l'autre dans ce qu'il est, comme il est, dans sa différence, parce que la différence est une richesse. Si on était tous pareils, mon Dieu, qu'est-ce que ça serait ennuyeux.
C'est presque un principe même dans votre pratique de la pédiatrie, Nora Baz, ce que vous exprimez là. Parce que c'est éduquer par l'exemple, quand même. C'est aussi ce que vous dites à certains des parents régulièrement. C'est si vous voulez que votre enfant aille bien, peut-être commencer par vous aller bien,
ben
c'est
oui.
ça.
Et puis surtout, essayez de sourire le matin. Je sais que ça peut paraître un peu schématique ce que je dis.
C'est pas toujours facile, surtout.
C'est pas toujours facile, mais éduquer par l'exemple, ça vaut tous les cris et les hurlements de range ta chambre, je sais pas quoi et tout. Quand le bureau du papa, ils sont dessus, que le placard de la mère est voilà. Donc, éduquer par l'exemple, ce que je dis, c'est qu'il faut que ça prenne sens. Je suis quelqu'un, j'adore l'harmonie. L'harmonie, elle vient de quoi? De l'adéquation entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Ça commence par ça. Après, la légèreté, c'est souvent une politesse envers les autres. Se parfumer, s'habiller joyeusement, même quand on n'a pas le cœur à ça. Il y a un proverbe anglais que j'aime beaucoup, « fake it until you make it ». C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à être de plein pied dedans. Je le dis à mon mari tous les jours, parce que lui, par contre, c'est pas un joyeux. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est naturellement joyeux. C'est quelqu'un qui est très anxieux. Après, il me dit « je suis née comme ça ». Et moi, je suis née comme ça. C'est très bien qu'on se soit trouvés parce que ça, c'est très complémentaire, finalement. Et l'un adoucit l'autre. Hier matin, par exemple, j'avais mis à fond Aretha Franklin parce que j'ai fait 12 ans de danse, du ballet classique d'abord, et ensuite de la danse moderne. Et puis, il me regarde, il me dit, si je pouvais avoir 1% de ton énergie le matin, j'ai éclaté de rire. J'ai dit, mais mets de la musique. Au lieu d'écouter les chaînes d'information en boucle qui se font un plaisir de vous asséner la pire nouvelle et la pire monstruosité qui s'est passée durant la nuit. Mais enfin, il y a aussi de belles choses qui se passent dans ce monde. Il y a de la joie. Moi, je suis quelqu'un, je mets la joie sur ordonnance. Parce que ça nous fait du bien, d'abord. Nous, humains, ça nous fait du bien. On ne peut pas passer sa vie à se lamenter sur soi-même et sur le monde qui va mal. Ah, le monde va mal, machin. Alors, j'arrive le matin, par exemple, pour une réunion, tout le monde qui tire la tronche. T'as vu, t'as entendu ce qui s'est passé, machin, oui. Je dis, ah, vous voulez pas un café? Alors, j'amène toujours des dates, du punch, tu vois. Les dates, c'est un concentré de bonheur. Ça contient plein de bonnes choses pour le corps, pour la tête. Du chocolat, c'est fabuleux. À la pause de 11h et à 17h, quand on a une petite baisse de tonus et tout. Voilà, je piste les choses qui font du bien.
Et si on finissait alors par quelques douceurs dans la base?
Oui.
Puisque quand
plaisir.
Ça va mal, on cherche à se faire du bien,
oui.
En se réconfortant. En mangeant, c'est vrai sur le plan personnel, c'est vrai sur le plan collectif, puisque c'est ce que vous écrivez dans De miel et de lait, quand le pays est malade, l'héritage culinaire le fait revivre.
Mais absolument, c'est le meilleur lien social. La cuisine est le meilleur lien social. Ça fait passer de bonnes ondes. Moi, j'emmène quelqu'un déjeuner dans un restaurant, quelqu'un que j'aime, quelqu'un pour qui j'ai de l'affection, de la tendresse. J'adore emmener les gens déjeuner ou les inviter chez moi. Parce que je trouve que c'est une bulle dans laquelle, pendant 2 heures de temps, on oublie le mot « on se fait du bien ». Il faut recharger ses batteries, non ? Une voiture, ça roule avec de l'essence, il faut que la batterie soit là. Et nous sommes pareils, nous, humains. Donc, il faut aussi se donner du plaisir. Il faut vraiment se rebooster. Un jus de grenade, allez hop, et ça repart. Un jus de... ou une belle pomme, là, par exemple, j'ai mis des pommes libanaises et des pommes normandes, côte à côte.
Sur la table?
Oui, sur la table. La grenade, ça, c'est ce que je vais accrocher cette année au sapin de Noël. Donc, je commence à... les grenades en verre soufflé, dont l'usine a été complètement... mais complètement rasé. Et moi, je garde ces grenades. Je trouve une source d'émerveillement partout.
De miel et de lait, c'est donc une histoire douce du Liban, une pérégrination à travers le pays à la recherche de ses douceurs. Et alors, quand on regarde ce livre, qui est assez épais, qui est lourd d'ailleurs, c'est dingue le nombre de desserts que vous avez au Liban.
Oui.
Est-ce que c'est proportionnel à son besoin de réconfort ?
Oui, la nourriture en général, mais les desserts, ça, c'est toujours festif pour moi. C'est synonyme de fête. Et les 305 pages du livre, avec les 350 photos sont témoins de la joie dans ce pays. Nous avons beaucoup de traditions et de rituels autour des fêtes. Par exemple, il y a un dessert qui est délicieux, très simple à faire, avec de la pâte phyllo. Vous faites une semoule avec au lait, ce qu'on appelle en France la semoule au lait, sauf que chez nous, on la parfume d'eau de rose et de fleurs d'oranger. On la découpe en carré, on la met dans la feuille phyllo, hop, 3 minutes dans une poêle avec un peu d'huile chaude et on la saupoudre de très peu de sucre glace. Personne au Liban, même les personnes qui vivaient d'ailleurs dans la préface Farou Mardambey le dit, je lui ai appris des choses et je lui ai fait revivre des souvenirs d'enfance. Et ce petit dessert simple, pour revenir à la tamriyeh fait revivre, en fait, elle a été inventée pour célébrer les dates nouvelles qui arrivaient toujours fin septembre, début octobre. Nous avons de magnifiques palmiers dans tout le sud au Liban. Et vous voyez au fur et à mesure les fruits qui rougissent, puis jaunissent, et on fait ensuite des confitures avec. Et célébrer la nouvelle saison de la date, ben chez nous, ce dessert a été inventé pour ça. Mais personne ne le savait. Moi, j'ai été questionner les anciens, comme on les appelle, les personnes âgées, découvrir l'histoire, le pourquoi du comment, j'adore ça. Je me suis énormément amusée, j'ai goûté à des desserts sublimes que je reproduis avec beaucoup de plaisir dans ma cuisine parisienne, et à Beyrouth forcément, mais à Beyrouth, tout vous est déjà pré-mâché, pré-fait. Ici, par exemple, ce dessert de mozzarella semoule avec un tout petit peu de crème de lait et parfumé à la rose et à la fleur d'oranger, c'est un voyage. On va le goûter.
On va le goûter.
Chiche.
Est-ce que vous nous liriez la recette du pain du sérail qui est dans ce livre de miel et de lait pour terminer, Nora Baz?
Avec plaisir, mais l'histoire ou les ingrédients? L'histoire. Amine Malouf, une de nos plus belles figures nationales libanaises, m'avait confié la recette du pain du sérail de sa mère Odette, qui était lui décoré de dattes. Cette recette était préparée dans la maison de mes grands-parents maternels à Héliopolis, en Égypte. Parce qu'il est levantin, Amine Malouf a passé les 10 premières années de sa vie en Égypte avant de s'installer au Liban. Ma mère a toujours affirmé que le succès de ce dessert tenait principalement au choix du pain. En Égypte, la famille utilisait un pain grec rond et plat, à la croûte fine et à la mie légère. Mariée à mon père et installée à Beyrouth, Odette s'est mise à utiliser un pain arménien qui lui semblait avoir les mêmes qualités que celui utilisé en Égypte. Alors je rajoute juste une parenthèse, Odette était une femme extraordinaire, qui est décédée il y a 2 ans, qui a vécu 100 ans et qui était la joie de vivre incarnée. C'est extraordinaire cette femme. Ce dessert très populaire au Levant est toujours synonyme d'abondance et de joie. C'est le dessert préféré de mon mari et voilà, je le lui fais régulièrement, je l'ai fait aimer à tout le monde. Son nom laisse présager de la fête qu'il donne à déguster. Aïch signifie pain en arabe. Ça signifie également la vie, c'est-à-dire ça désigne la vie. Et le aïch en arabe dialectal égyptien, donc, donne également à imaginer la vie et les rituels du sérail. Lorsque le dessert est présenté à table, sa croûte dorée, bien imbibée de sirop de sucre parfumé de fleurs d'oranger, surmontée d'une montagne lactée garnie de pistaches, est déjà un tableau figuratif du Liban et une ode à la gourmandise. J'ai essayé plusieurs recettes jusqu'à mettre au point, en recoupant plusieurs versions, une facile à reproduire au Liban et partout dans le monde et que je vous lis à l'instant.
Merci Nora Baz.
Merci Caroline Brouet.
Et merci pour ces 5 entretiens. C'était À Voix Nue avec Nora Baz, réalisation Manouchak Fachaï, prise de son Loïc Duros, chargée de programme À Voix Nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.